Tous les 5 ans, le nombre de personnes handicapées vieillissantes double. Parmi elles, certaines vont développer des maladies liées à l'avancée en âge. Professionnels et structures s'adaptent peu à peu. Et dans cet épisode, vous allez découvrir comment, face à la survenue de la maladie d'Alzheimer chez des personnes déficientes intellectuelles, des équipes se sont engagées concrètement dans la transformation de leurs pratiques.
Déficience intellectuelle et maladie d'Alzheimer. Un podcast proposé par la communauté mixte de recherche d'IMA pour informer sur la situation spécifique des personnes avec déficience intellectuelle confrontées à la maladie d'Alzheimer.
Éric Forestier est directeur des centres d'habitat de l'association Les Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing. Il dirige 4 établissements, dont un s'est spécialisé dans l'accueil d'anciens travailleurs des HAT à la retraite pour que ces derniers puissent vieillir dans leur lieu de vie.
Épisode 5. S'engager et innover. Réalisation, Blandine Lacour et Maxime Huige.
Ce n'est pas la question du maintien de personnes handicapées âgées dans leur lieu de vie qui a amené Éric Forestier à rejoindre la communauté mixte de recherche sur la déficience intellectuelle et la maladie d'Alzheimer, mais une situation moins habituelle. Une situation pourtant de plus en plus fréquente et qui touche parfois des personnes bien loin de la retraite.
On a eu 2 situations sur un foyer d'hébergement. Donc c'était des travailleurs des HAT qui étaient encore en activité, qui ont été confrontés du coup à l'apparition de troubles neurodégénératifs alors qu'ils avaient une 40aine d'années. Ça a été noté par les équipes éducatives et puis par les familles, puisqu'on avait pour ces personnes des familles qui étaient très présentes. Et par les équipes éducatives, ça a été vécu alors à la fois les équipes éducatives dans la structure d'hébergement et puis aussi les équipes éducatives du travail qui ont constaté qu'il y avait une perte d'intérêt dans les activités du quotidien, puis une perte de repères, des repères dans le temps, des repères dans l'espace. Laurent, qui nous a un peu servi de guide, finalement, dans tout ce qu'on a pu mettre en place autour de l'accompagnement, parce que c'est autour de cette situation qu'il y a beaucoup de portes qui se sont ouvertes. Laurent, un des premiers faits, c'est qu'en fait, il s'est levé la nuit pour aller au travail. C'était pas l'heure, c'était pas le moment, et en fait, c'est arrivé de manière très isolée, enfin, tout d'un coup, en fait, une nuit, il s'est levé et il est parti pour aller travailler.
Au Papillon Blanc de Roubaix-Tourcoing, c'est donc l'apparition de troubles chez Corinne et Laurent qui a bousculé l'organisation du travail. Désemparés au début face à l'augmentation et l'accumulation des troubles, équipes et familles se sont rapidement mobilisées, unies par le besoin de comprendre et d'agir.
Alors d'abord, on cherche au quotidien, on cherche à s'adapter et à bien répondre à l'accompagnement de ces personnes, et notamment de Laurent. Parce qu'en fait, l'apparition de ces troubles, ça crée des déséquilibres dans l'accompagnement, en tout cas des inhabitudes dans l'accompagnement auxquelles il faut répondre. C'est-à-dire qu'il faut continuer à assurer la sécurité de la personne. Il faut trouver des moyens pour du coup pouvoir s'organiser différemment, qu'ils ne sortent pas la nuit par exemple, ou qu'ils ne se mettent pas en danger, ou qu'ils aillent bien au travail pour pouvoir avoir ses ressources. Donc c'est l'adaptation de l'accompagnement. Et ça, ça a été un travail sur le terrain tout de suite de la part des équipes. Pas forcément sensibilisés à cette problématique. Donc il y a eu l'adaptation au quotidien des équipes éducatives en disant comment on peut faire différemment par rapport à cette personne. Est-ce qu'il faut mettre en place des moyens supplémentaires? Est-ce qu'il faut mettre en place des moyens techniques pour venir aider au quotidien? Et puis en parallèle, nous, notre mission au niveau de la direction, c'est d'aller chercher effectivement des partenaires ou des situations similaires qui sont déjà arrivées. Des équipes peut-être qui connaissent déjà ce type de troubles et qui interviennent déjà. Ça, c'était notre organisation. Donc en fait, au fur et à mesure de l'avancée, effectivement, dans la maladie, ça a été à chaque fois de s'adapter, finalement, à l'évolution de l'augmentation plutôt des troubles. On se rend compte qu'il y a des choses qui sont déjà mises en place. On se rend compte qu'il y a des gens qui ont déjà fait des recherches dessus. Et on se rend compte qu'il y a une équipe sur Valenciennes qui existe depuis longtemps et qui travaille sur ce sujet de l'accompagnement, justement, spécifique. On se rend compte qu'il y a une consultation aussi à Saint-Amand, handicap et puis avancé en âge, qui a été mise en place par le docteur Dambre. On se rend compte aussi qu'il y a une équipe sur Dunkerque qui a mis en place aussi un accompagnement spécifique. Donc on se rend compte qu'il y a déjà des choses et que finalement, les personnes qu'on accompagne, ce n'est pas des cas isolés. Quand on en parle, oui, dans tel ESAT, il y a un travailleur qui commence effectivement à présenter des troubles et puis dans tel foyer, il y a aussi une personne, une résidente qui commence à présenter des troubles et du coup, on se rend compte que ce n'est pas des situations isolées et qu'il faut en faire quelque chose de plus large en fait, en termes de réponse à trouver.
Sur vieillesse et handicap, pour peu de chercher un peu, on trouve des informations. Mais sur cette spécificité du croisement de la déficience intellectuelle et de la maladie d'Alzheimer, les réponses à la problématique étaient quasi inexistantes. Pour Éric Forestier et les papillons blancs de Roubaix-Tourcoing, il a donc fallu innover.
On a commencé par aller chercher les experts dans le domaine des troubles neurodégénératifs et de l'Alzheimer, c'est-à-dire d'aller se tourner vers le champ du secteur des personnes âgées et puis le champ de la gériatrie, puisque c'est là où cette maladie est plus classiquement présente. Et donc on s'est tourné vers la recherche de partenaires, et en premier lieu les équipes spécialisées Alzheimer à domicile, qui sont des équipes qui interviennent auprès des personnes qui ont plus de 60 ans, qui présentent des maladies d'Alzheimer, et qui font une intervention à domicile. Et pour Laurent, ça a été une des premières équipes qu'on a sollicité pour avoir un regard d'expert sur la maladie, et du coup aussi des conseils au quotidien, parce que c'est le boulot de ces équipes de pouvoir dire eh ben, voilà comment vous pouvez adapter un peu le quotidien, voilà comment vous pouvez intervenir, voilà comment vous pouvez rassurer, pour accompagner au mieux la personne. Donc ça a été les premières équipes vers lesquelles on s'est tourné. On a cherché aussi, du coup, dans le secteur des personnes âgées, des établissements qui pouvaient éventuellement accueillir en journée. Donc, il y a des accueils de jour Alzheimer qui existent déjà, pareil pour des personnes âgées, mais ils ne sont pas habitués à accueillir des personnes plus jeunes, voire même ils n'ont parfois pas les agréments ou pas la possibilité d'accueillir des personnes en dessous de 60 ans, donc il faut des dérogations, il faut faire des démarches. Mais en tout cas, c'est des portes auprès desquelles on est allé taper. Et quand je dis « on », c'est la direction, mais c'est les professionnels éducatifs, et puis c'est aussi les familles, puisque Laurent avait la chance d'avoir une maman qui était très présente et très aidante, et c'est elle aussi qui est allée taper à beaucoup de portes, mais qui nous a beaucoup aidés aussi dans tout ce qu'on a pu mettre en place. Les équipes éducatives ont tout de suite adhéré. Alors, elles étaient à la fois perdues, démunies, parce qu'en fait... c'est des troubles qui ne sont pas habituels dans notre secteur. Enfin, aujourd'hui, c'est vraiment un nouveau public qu'on accompagne et qu'on n'accompagnait pas il y a quelques années. Donc, en fait, il y a une adaptation qui est nécessaire en termes de pratique parce qu'un éducateur n'est pas formé dans sa formation à ce type de troubles qu'on trouve plutôt dans le champ des personnes âgées. Et donc, c'est des formations différentes. Et donc, on s'est rendu compte là qu'en termes de pratique, il y avait des questions qui arrivaient de la part des professionnels qui ne s'étaient jamais posées. Et les habitants, du coup, les résidents, les compagnons, finalement, de l'habitation au sein du foyer de Laurent ou de Corinne ont été aussi participatifs et aidants là-dedans, parce que aussi pour eux, ils voyaient leur ami, leurs proches, leur cohabitant changer. C'était plus le même non plus. Et donc, ils se sont aussi, eux, adaptés pour pouvoir être aidants. Laurent, par exemple, il n'arrivait plus à se rendre à l'ESAT tout seul. Et donc, du coup, il s'organisait pour l'accompagner, pour partir à pied avec lui. Les habitants, ils partaient ensemble le matin. Donc, ils adaptaient aussi leur organisation pour pouvoir l'accompagner le matin.
C'est essentiel, ce que dit Éric Forestier. L'engagement est collectif, il faut une adhésion globale, des équipes éducatives, mais aussi des familles et amis ou co-résidents de la personne qui présente des troubles liés à la maladie d'Alzheimer. Une adhésion, mais aussi des moyens, bien sûr.
Il y a des moyens, des fois, qui ne coûtent pas grand-chose, d'être rassurant avec les équipes, de les accompagner, de faire venir des partenaires dans un établissement pour sensibiliser, de créer du partenariat et de faire en sorte que les équipes se rencontrent pour pouvoir échanger entre le secteur des personnes âgées et puis le secteur du handicap par le biais de formations communes ou alors par le biais d'immersion, c'est-à-dire que nos professionnels aillent passer un petit peu de temps dans le secteur des personnes âgées pour du coup savoir comment on accompagne spécifiquement des personnes qui ont des troubles neurodégénératifs. Et puis inversement, les personnes du secteur des personnes âgées sont venues pour voir comment on accompagne des personnes en situation de handicap. Alors, il y a eu des peurs d'abord, comme c'est de l'inconnu, bah, du coup, on ne savait pas faire. Donc là, il a fallu chercher pour du coup, avancer face à ces peurs. Et puis après, les freins, ils ont été multiples. Alors, au début, on pensait qu'ils étaient des freins administratifs par rapport au fait de passer d'un foyer à un EHPAD, par exemple, ou une unité de vie pour personnes handicapées vieillissantes. On pensait qu'il y avait une histoire de ressources aussi, parce que du coup, il allait falloir payer un prix de séjour plus important, et que c'était ça, finalement, les seuls freins. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on a les freins. Il y avait évidemment tout ce qui est administratif, mais il y a aussi des freins qui sont liés à la méconnaissance de la maladie, au fait de ne pas réussir à avoir un diagnostic non plus précis, parce qu'on ne trouve pas de médecin et pas de consultation ici, sur notre secteur de Roubaix-Tourcoing spécialisé. Des freins qui étaient liés aussi aux familles, qui du coup, quand on leur parlait de troubles de type Alzheimer, ça évoquait la gériatrie, et donc du coup, ça évoquait peut-être une orientation vers un secteur dont ils ne voulaient pas du tout, avec toutes les représentations que pouvaient avoir les EHPAD et donc des freins aussi au niveau des familles, des freins au niveau des pratiques. Les équipes ne travaillent pas de la même manière, on n'a pas les mêmes taux d'encadrement, on a des taux d'encadrement qui sont importants dans le champ du handicap, donc en fait les personnes sont très entourées. Dans le champ des personnes âgées, on a des taux d'encadrement qui sont beaucoup plus faibles. Et puis, eux font beaucoup plus de soins, nous, on fait beaucoup plus d'éducatif. Or, quand on a des troubles neurodégénératifs qui apparaissent, ben, l'éducatif, il a tendance à se perdre au profit du soin, mais du coup, on ne sait plus faire. Et eux, en face, ben, où il reste un peu d'éducatif quand même à faire, et ils ne savent pas faire non plus. Donc, les échanges de pratiques ont été nécessaires aussi. Donc, c'est l'ensemble de ces freins-là qu'il a fallu lever par le biais des rencontres, des partenariats qu'on puisse créer.
Les freins à l'accompagnement global sont nombreux. Et pour les équipes des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing, très investies dans la recherche de solutions, la participation à la communauté de recherche s'est imposée très naturellement.
Ça a été une opportunité dont on s'est saisi tout de suite au regard des problématiques et du public qui évoluait chez nous. On y a investi avec la présence d'habitants, de foyers, on y a investi avec la présence de familles, de professionnels, et puis de membres de la direction aussi, et de la direction générale au COPIL. Donc il y avait vraiment une envie de pouvoir s'investir dans DIMA pour pouvoir participer aussi, alors d'abord à la réflexion, mais aussi à la création de livrables, c'est-à-dire de mettre en place derrière des outils qui vont pouvoir servir et apporter des réponses aux personnes accompagnées et aux familles. Donc ça a été notre envie, et puis il y a déjà des outils qui sont existants et des livrables qui ont déjà été mis en place, donc c'est une réussite, et puis c'est des moments d'échange et de rencontres qui sont extrêmement riches, positifs, constructifs. On se rencontre aussi entre personnes accompagnées, professionnelles, directions, dans des contextes qui sont complètement différents, et moi je plaisantais beaucoup au début sur le terme de communauté mixte, le terme de communauté ne me parlait pas. Je ne comprenais pas trop ce que ça voulait dire. Et aujourd'hui, ça a pris tout son sens quand je vois les liens qui ont pu se créer justement avec des personnes qui ont des parcours extrêmement différents les uns des autres, qui sont confrontés directement ou indirectement, qui viennent de secteurs géographiques différents aussi. Et aujourd'hui, cette notion de communauté, elle a pris tout son sens parce qu'on communique les uns avec les autres. On prend contact, on échange, on se rencontre. Ils viennent visiter les établissements, nous, on va visiter leurs établissements. Et les résidents aussi échangent entre eux. Enfin, il y a une vraie richesse et cette communauté, elle existe aujourd'hui. Elle porte bien son nom.
Éric Forestier vient de mentionner des livrables, des outils. Participer à une communauté mixte de recherche permet d'obtenir des résultats très concrets grâce aux nombreux échanges entre les différents membres de la communauté.
Quand on a des outils qui permettent d'objectiver réellement les difficultés, ça permet effectivement d'aider à cette question de l'évaluation et puis après, à terme, d'un diagnostic. Et là, on a travaillé avec le docteur Dambre, qui a créé un outil, une grille d'évaluation, qui permet effectivement d'observer sur des gestes et des activités de vie quotidienne très simples, sur l'intérêt qu'on a pour nos activités, les liens sociaux qu'on a avec nos amis, l'intérêt pour le travail, l'orientation dans le temps, dans l'espace, l'appétit, la mobilité, et du coup, de pouvoir observer tous ces éléments et de pouvoir les coter dans une grille. Alors, le docteur Dambre l'utilise depuis très longtemps, c'est elle qui l'a mise en place, et elle a choisi de la partager l'année dernière, et de la diffuser, et qu'on puisse tous y avoir accès. Et donc, on s'en est saisi, mais il fallait apprendre à la compléter, et donc on a travaillé ça avec l'équipe de Valenciennes, qui nous a soutenus, parce qu'elle l'utilisait déjà depuis quelques temps. Donc, ça a été des liens aussi intéressants.
Très mobilisés, les Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing se sont aussi associés à un autre projet innovant. La création d'un guide pratique pour l'accompagnement des personnes avec déficience intellectuelle atteintes de la maladie d'Alzheimer. Financée par la CNSA et coordonnée par Muriel Delporte, la réalisation de ce guide est le fruit de la collaboration entre des professionnels du champ du handicap et des professionnels d'équipes spécialisées Alzheimer à domicile. Ce guide pratique sera disponible en juin 2025 et vous y trouverez des informations sur ce qu'on peut mettre en place pour accompagner les publics concernés. Ce guide, bien sûr, n'est pas la seule réponse apportée.
En termes de réponse, le développement de partenariats avec le secteur des personnes âgées, on l'a accentué aussi pour pouvoir du coup travailler sur la notion de parcours, puisque quand nos établissements ne sont plus là, pour nous la bonne réponse en termes de qualité de soins et d'accompagnement, on a tissé des liens et conventionné avec beaucoup d'établissements du secteur des personnes âgées sur la réorientation de personnes qui avaient du coup plus un intérêt à vivre dans ce type d'établissement avec des unités de vie spécialisées pour les personnes en situation de handicap, ou voire même dans des EHPAD classiques avec des unités de vie Alzheimer. Et donc là, on a développé beaucoup de partenariats sur notre secteur. Et puis apprendre à communiquer beaucoup, puisqu'il fallait qu'au niveau de l'association et au niveau de nos partenaires, on puisse aussi expliquer que ben, voilà, c'était quelque chose qui se présentait à nous aujourd'hui et puis ce qu'on pouvait mettre en place et du coup, en contrepartie aussi, échanger. Et donc, on a organisé des temps d'information et notamment un colloque qui a eu lieu au mois de février sur le vieillissement, sur cette thématique. On a eu beaucoup d'acteurs qui sont venus aussi témoigner de ce qui pouvait se mettre en place et de ce qu'on pouvait faire.
Grille d'évaluation, partenariat, guide pratique, colloque. Parmi les actions innovantes développées par les Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing, une autre, et pas la moindre, est à signaler. La création d'une équipe mobile.
En fait, on s'est appuyé sur un constat qu'avait fait Muriel Delporte sur l'intérêt que pourrait avoir la mise en place d'une équipe mobile, très experte dans l'accompagnement des personnes qui ont une déficience intellectuelle et une maladie d'Alzheimer. Et donc Muriel avait écrit un projet dont on s'est saisi avec son autorisation et qu'on a défendu auprès du département et de l'ARS qui ont accordé des financements. Et donc l'équipe mobile est en train de voir le jour. Il y a deux professionnels experts autour de l'accompagnement de ce public spécifique, un ergothérapeute et puis une aide médico-psychologique AMP qui composeront ce binôme et qui aura la vocation à pouvoir se déplacer sur simple interpellation d'une famille qui a un proche qui commence à présenter des troubles neurodégénératifs, d'un établissement qui constate qu'il y a des choses qui changent et que ce serait bien qu'il y ait une équipe experte qui vienne apporter un peu son regard ou son soutien auprès de l'équipe éducative ou alors d'un établissement autour du travail ou d'un partenaire, puisqu'en fait on aura vocation à intervenir dans tout type d'établissement également en dehors de notre association. On croit beaucoup en cette équipe pour qu'elle puisse être à la fois soutenante en termes d'information, de dire bah oui, effectivement, c'est possible, c'est une réalité, et voilà effectivement ce qui peut être mis en place. Donc de l'information, de l'orientation également vers du coup les partenaires, c'est-à-dire que tout le monde n'ait pas à refaire les démarches que nous on peut faire, mais que du coup elles soient simplifiées, qu'elles puissent être aidantes aussi auprès des familles qui sont perdues ou en panique ou en questionnement, aider au diagnostic, puisque c'est un élément important pour pouvoir bien accompagner sur la durée. Et puis aussi, elle, du coup, apporter son expertise en termes d'accompagnement auprès des familles, auprès des équipes éducatives. Elle fonctionnera effectivement avec une file active, donc on n'a pas un nombre de places limité. Des fois, elle interviendra peut-être très ponctuellement pour dire ben, « oui, effectivement, ça peut être ça, et puis voilà ce que vous pouvez mettre en place, et puis ça s'arrêtera là ». Et puis parfois, si c'est quelqu'un qui est à domicile, un peu plus isolé, avec des parents qui sont perdus, et ben, du coup, ce sera d'être plus soutenant et plus accompagnant sur la durée. Donc les modalités d'intervention, elles seront très différentes en fonction des situations, de l'évolution aussi dans la maladie. Et donc l'idée, ce sera vraiment de s'adapter à chaque situation. Et sur la question du diagnostic, la création de cette équipe nous a amené aussi à développer une consultation spécifique au centre hospitalier de Roubaix, donc à proximité pour notre secteur géographique. Et le centre hospitalier de Roubaix a montré aussi tout de suite de l'intérêt sur le fait de pouvoir mettre à disposition un psychogériatre qui anime maintenant ces consultations spécifiques ici sur notre secteur.
C'est déjà beaucoup et assez exemplaire tout ce qu'ont mis en place les équipes des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing. Mais Éric Forestier et son équipe continuent de réfléchir et étudient de nouvelles pistes d'action.
Dans les pistes déjà amorcées, mais sur lesquelles on continue à avancer, c'est la notion des ressources humaines et de l'accompagnement des personnes au quotidien. C'est vrai que l'apparition de ce nouveau public, ça a eu un impact alors d'abord sur nos plans de formation, puisque du coup, il a fallu former beaucoup plus nos professionnels déjà présents au vieillissement, à l'avancée en âge, aux troubles neurodégénératifs. Et donc, ça s'est venu s'inscrire de manière assez importante dans le cadre de tous nos plans de formation dans tous les établissements. Et puis, ça a aussi eu une influence sur la manière dont on recrute, puisque ça nous intéresse aussi dans les nouveaux recrutements, dans les personnes qu'on va embaucher. Il y a eu un parcours dans le champ des personnes âgées. C'est aujourd'hui un plus quand on voit que quelqu'un a travaillé dans un secteur de type Alzheimer, dans un accueil de jour, voire même dans un EHPAD. Aujourd'hui, ça peut être un plus par rapport à l'embauche aussi dans certains établissements. Donc, on voit que ça nous amène aussi à choisir des profils un petit peu différents en termes de recrutement par rapport aux profils qu'on pouvait peut-être choisir avant.
Toutes les réponses développées ont en commun la volonté de maintenir la continuité de l'accompagnement et d'éviter les ruptures. Ce n'est pas simple puisque les Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing n'ont pas d'établissement spécialisé vieillesse, handicap et maladie. C'est donc au cas par cas que des solutions vont être apportées en mobilisant toutes les ressources disponibles.
en maintenant en fait un accompagnement et en avançant progressivement avec nos partenaires, avec nos partenaires du secteur des personnes âgées, on va pouvoir aussi faire en sorte que la personne puisse s'acclimater progressivement. Les conventions qu'on a signées, par exemple, avec les EHPAD et avec les UVPH, les unités de vie pour personnes handicapées vieillissantes, elles permettent d'avoir des phases d'immersion progressive, c'est-à-dire que la personne vient d'abord passer une demi-journée pour découvrir l'établissement, elle vient avec un éducateur et du coup elle fait une activité avec les personnes âgées dans l'établissement ou avec les autres personnes de l'UVPH. Et puis ensuite elle vient, si ça se passe bien, elle revient une journée complète pour participer à un temps de repas. Et puis si cette partie-là se passe bien aussi, du coup elle peut se projeter sur une éventuelle admission. Donc ça permet aussi d'avancer progressivement, puis à un moment aussi de se re-questionner, de se dire là ça s'est pas très bien passé, ou l'établissement correspond pas, du coup on en cherche un autre. Et donc ça c'est un accompagnement qui est à la fois progressif et aussi du coup global et mutualisé entre le secteur de la gériatrie et puis notre association. Donc on n'est surtout pas sur une seule réponse qui serait la réorientation, on est vraiment sur une adaptation des réponses qui vont être apportées à la personne. Le critère de l'âge, par exemple, n'est pas un critère pour se dire à un moment il faut que la personne quitte un établissement. Le fait d'avoir des troubles qui apparaissent, ce n'est pas non plus un critère pour dire il faut que la personne quitte notre association ou notre établissement. Ça va être un ensemble de facteurs qui vont nous amener effectivement à réfléchir à une éventuelle autre solution. Mais ça peut être une solution en interne, avec un service d'accompagnement et avec l'équipe mobile par exemple, comme ça peut être des réponses parfois en externe.
Professionnels, familles, proches, associations ou pouvoirs publics, tous sont acteurs de l'accompagnement. Ce que démontrent très bien Éric Forestier, les équipes des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing et l'ensemble de la communauté de recherche, c'est que la réussite est le fruit d'une dynamique collective. Dans le prochain épisode de ce podcast, c'est à des personnes avec déficience intellectuelle qui participent à la communauté de recherche et qui sont pour certaines compagnons de route de Laurent et Corinne que nous donnerons la parole. D'ici là, retrouvez l'histoire de Laurent racontée par sa mère, Madame Pierron, en ligne avec tous les autres épisodes sur social-project.fr/dima. N'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous et à le partager sur votre site ou dans une structure.